Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 30 septembre 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous, au sommaire du journal. Au Burkina Faso, d'intenses fusillades à Ouagadougou font craindre un coup d'État. La situation reste confuse dans la capitale burkinabé. Nous entendrons le témoignage d'un habitant proche du palais présidentiel à Ouagadougou. En RDC, l'ONU dénonce la stigmatisation de ses casques bleus. Vladimir Poutine a scellé aujourd'hui l'annexion de 4 régions en Ukraine. Les Occidentaux ont tous condamné et les États-Unis promettent une nouvelle salve de sanctions. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le Burkina Faso se retrouve sous tension ce vendredi après que des tirs ont été entendus et des soldats ont pris position sur de grands axes dans la capitale. Tentative de coup d'État ou simple grogne de l'armée? Une première réponse est venue du porte-parole du gouvernement burkinabé, Lionel Bilgo, après plusieurs heures de silence du pouvoir. Il a dit à l'AFP que c'est une crise interne à l'armée. Il s'agit d'une crise militaire de certaines unités sur la base de revendications liées à des primes et à certains traitements. M. Bilgo a ensuite fait savoir que les échanges se poursuivent pour un dénouement sans écueil. Pour les derniers développements de la situation à Ouagadougou, je vous propose de retrouver notre correspondant Lamine Traoré.
Bonjour Jean-Roger.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la capitale burkinabé?
Jean-Roger, pas de nouveau, hein. C'est une situation toujours confuse à Ouagadougou. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus très tôt hein, ce vendredi dans plusieurs casernes de la capitale, vous le savez. Donc, s'agirait-il d'une mutinerie ou d'un coup d'État? Pour l'heure, difficile de répondre. Le signal de la télévision nationale qui est coupé depuis le matin n'est toujours pas de retour. Les lieux sont hyper sécurisés. Des points sensibles de la capitale aussi sont pris par des militaires. Une grande partie du quartier Ouagadougou 2000, c'est le QG du président Damiba, est fermée. Certains commerces sont aussi fermés, également des stations-service. La présidente du Faso, Jean-Roger, a évoqué dans un communiqué un mouvement d'humeur de certains éléments des forces armées nationales et a indiqué que des pourparlers sont en cours pour ramener le calme et la sérénité. Mais tout juste après ce communiqué de la présidence, des tirs à l'arme lourde ont été entendus dans des casernes, notamment au camp Babassi, et dans plusieurs autres endroits de la ville. Pour l'heure, les tirs ont cessé. En dehors de quelques tirs sporadiques, on attend une annonce du gouvernement et on apprend que le lieutenant-colonel Damiba est toujours en négociation avec les mutins, avec ceux en tout cas qui ont tiré depuis ce matin. Donc la situation reste confuse et ça risque d'évoluer encore dans les prochaines heures.
Confusion donc toujours à Ouagadougou, où des tirs ont été entendus avant l'aube. Des militaires armés bloquent quelques points et artères de la ville, ainsi que l'accès au palais de Kossiam, nous dit Lamine Traoré. Bassirou Ouédraogo habite non loin de la présidence. Il a été joint ce matin par Arzumba Compaoré.
Sinon, vraiment, ce matin, bon, c'est levé avec des bruits de fusils partout, de gauche à droite, vraiment, depuis 4 heures en allant, bon, vraiment, c'est pas facile, quoi. Ce que actuellement on entend, c'est des fusils, le bruit des fusils qui résonnent de gauche à droite, précisément vers le camp, camp Babassi, et près du Kossiam. Sinon, actuellement, nous sommes derrière Kossiam, derrière le camp Nabakoum 2, ça veut dire après l'extension, les habitations qui se trouvent après l'extension de Ouala 2000. C'est-à-dire que c'est les maisons qui sont plus collées après la présidence, quoi. Vraiment, pour les inquiétudes, on peut dire que nous sommes très inquiets parce que vraiment, se lever un matin comme ça avec trop de bruit de physique, claque comme ça de gauche à droite, c'est très, très inquiétant. Déjà que le pays est déjà plongé dans une attaque terroriste, vraiment, c'est pas facile, quoi. Ce que nous attendons aussi, bon, dès que c'est un coup d'État, c'est un affrontement entre deux camps, le camp du MPCR contre le camp du colonel Zourana. Bon, c'est ce que les humains nous disent. Donc, le camp Babassi, lui, c'est le camp de Zourana. Maintenant, ils sont encerclés par d'autres mutins. Bon, ça veut dire que c'est là que ça se passe, les tirs bien nourris, quoi. On attend effectivement des tirs là-bas. En tout cas, on n'a pas de bilan officiel de ce qui se passe, mais aux alentours actuellement, on peut dire que nos familles sont en sécurité. Mais les militaires sont là, de gauche à droite, on voit des blindés, et puis vraiment, bon, ils sont partout, des militaires sont partout, tous les points stratégiques, les carrefours sont placés par des militaires. Donc maintenant, bon, on attend voir ce que ça va donner, quoi, vraiment. On prie le bon Dieu seulement que le pays retrouve ça, que tu vois, vraiment la paix.
Un résident de Ouagadougou, Bassirou Ouédraogo, joint dans la capitale burkinabé. L'émissaire de l'ONU en République démocratique du Congo a dénoncé aujourd'hui devant le Conseil de sécurité les récentes violences contre la mission de l'ONU dans le pays visée par des manipulations et des stigmatisations. Au cours des derniers mois, dans le sillage de la résurgence du M23, la crise de confiance que connaissait déjà la mission et la population congolaise dans l'est du pays s'est détériorée, a déclaré Madame Bintou Keïta, également chef de la mission MONUSCO. L'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, a repris aujourd'hui le contrôle de Johannesburg à l'opposition. La mairie de la plus grande ville du pays ayant été la maire du moins, a été inversée après l'effondrement de sa coalition. Lors d'un vote serré, des conseillers municipaux du poumon économique sud-africain ont nommé Dada Morero du Congrès national africain à la tête de la ville en remplacement de Mfo Palatse de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition qui occupait ce poste depuis moins d'un an.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nommée par Joe Biden, la juge progressiste Ketanji Brown Jackson a été investie aujourd'hui à la Cour suprême des États-Unis, devenant la première magistrate noire à siéger à la prestigieuse institution. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée dans l'édifice à colonne de la Haute Cour, sur la colline du Capitole à Washington, en présence de M. Biden et de la vice-présidente démocrate Kamala Harris. Madame Brown Jackson, 52 ans, fera partie de la minorité progressiste de la Cour suprême, l'organe qui tranche les importantes questions de société aux États-Unis. Le président Vladimir Poutine a entériné ce vendredi l'annexion de 4 régions d'Ukraine à la Russie. C'était lors d'une cérémonie au Kremlin en présence des 4 dirigeants pro-russes de Kherson, Zaporijja, Donetsk et Luhansk, territoires contrôlés en totalité ou en partie par Moscou. Un acte dénoncé et rejeté par plusieurs leaders du monde. John Lydon.
Les 4 dirigeants séparatistes et le président Poutine ont signé tour à tour les documents d'annexion devant un public composé de membres du gouvernement, des députés, sénateurs et d'autres membres de l'élite politique russe avant de se prendre par les mains et de scander « Russie » à l'unisson avec la salle. Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont immédiatement rejeté et condamné dans une déclaration cette annexion qualifiée d'illégale, accusant Moscou de mettre la sécurité mondiale en danger. Devant la presse jeudi, le secrétaire général de l'ONU avait déjà dénoncé la décision russe. L'annexion de régions ukrainiennes par la Russie n'a pas de place dans le monde moderne, avait dit Antonio Guterres. À l'ONU, justement, le Conseil de sécurité devrait voter ce vendredi sur une résolution condamnant ces référendums d'annexion et réclamer le retrait des troupes russes. Mais cette résolution n'a aucune chance d'être adoptée en raison du droit de veto de la Russie.
Les États-Unis ont décidé d'imposer de nouvelles et sévères sanctions contre la Russie, condamnant les annexions frauduleuses de territoires en Ukraine. Dans une sévère mise en garde, les États-Unis avertissent également qu'ils sanctionneront, en accord avec les pays du G7, tout pays, individu ou entité qui fournirait un soutien politique ou économique aux tentatives de la Russie de s'emparer illégalement de territoires en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a lui récusé ce vendredi les allégations du président russe Vladimir Poutine qui a accusé les anglo-saxons d'être à l'origine des explosions dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, parlant d'une désinformation scandaleuse. Je n'ai rien à ajouter à ces allégations absurdes du président Poutine, selon lesquelles nous ou nos partenaires alliés seraient responsables en quoi que ce soit de cela, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Les forces iraniennes ont ouvert le feu aujourd'hui sur des manifestants armée de pierre selon un média d'opposition basé à l'étranger, alors que le mouvement de contestation déclenché par la mort d'une jeune femme arrêtée par la police entre dans sa troisième semaine. Les manifestations dont la répression a fait au moins 83 morts ont débuté après le décès le 16 septembre de Mahsa Amini, une kurde iranienne, trois jours après son arrestation pour infraction au code vestimentaire strict de l'Iran qui oblige notamment les femmes à porter le voile islamique. Le pouvoir iranien qui dément toute implication des forces de l'ordre dans la mort de cette femme de 22 ans fustige les manifestants qualifiés d'émeutiers faisant état de centaines d'arrestations. Au moins 19 personnes ont été tuées ce vendredi à Kaboul dans un attentat suicide qui a frappé en majorité des filles contre un centre de formation rempli d'étudiants situé dans un quartier abritant la communauté minoritaire Hazara. Les étudiants se préparaient à un examen lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser, a expliqué Khalid Zadran, porte-parole de la police afghane. Selon cette même source, 19 personnes sont décédées et 27 autres ont été blessées. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Talani.
La Banque africaine de développement ouvre son programme SME Business Linkage à de nouvelles petites et moyennes entreprises à Madagascar pour leur permettre de faire des économies et créer de meilleures opportunités d'emploi. À terme, le projet réduira les inégalités et la pauvreté en misant sur le développement du secteur privé. Ce programme, qui ambitionne de stimuler la croissance économique et le progrès social en Afrique, existe déjà au Ghana et au Sénégal et est en cours de préparation pour les pays du Sahel. La Banque mondiale a approuvé une ligne de crédit de 750 millions de dollars en faveur du Nigeria pour la création des emplois et des réformes visant à attirer les investissements. Ces fonds devraient améliorer l'administration foncière, les télécommunications, les partenariats publics-privés, la promotion des investissements et l'environnement réglementaire des entreprises. Terminons par la FAO et le Réseau agroalimentaire international qui organisent un programme pilote de mentorat accéléré en faveur des femmes entrepreneurs évoluant dans l'agroalimentaire en Afrique subsaharienne. D'octobre 2022 jusqu'en mars 2023, le programme encouragera les participantes à accéder aux connaissances et outils nécessaires au développement de leurs entreprises et leur adaptabilité à un marché en constante évolution.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le président de la CAF en visite en Guinée.
Oui, Patrice Motsepe effectue cette visite en Guinée au moment où des questions persistent sur la capacité du pays à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Patrice Motsepe rencontre le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, selon un programme de visite communiqué par la Fédération guinéenne de football. La visite de M. Motsepe suit celle effectuée début septembre par une mission de la CAF venue s'informer de l'avancement du projet. Cette visite avait donné lieu à des spéculations sur la possibilité d'un retrait de l'organisation à la Guinée. Le président de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a publié un décret déclarant la CAN 2025 d'intérêt national et prioritaire. Motsepe doit tenir une conférence de presse à Alger demain samedi après une réunion du comité exécutif de la CAF.
Feu vert pour la chambre de compensation de la FIFA à Paris.
La FIFA a annoncé avoir obtenu l'accord des autorités réglementaires françaises pour installer à Paris sa future chambre de compensation. Cette dernière sera chargée de centraliser les paiements aux clubs formateurs en cas de transfert, un enjeu représentant plusieurs centaines de millions d'euros par an. La création d'une chambre de compensation pour les transactions entre clubs s'inscrit dans une réforme plus large du marché des transferts en cours d'adoption qui inclut le rétablissement d'une licence d'agent et un encadrement de leur commission. Selon la FIFA, une grande partie de la rétribution prévue pour les clubs formateurs leur échappe faute de centralisation de ces transactions. L'instance estime à près de 400 millions de dollars le montant qui devrait leur être distribué chaque année. Ils ne perçoivent actuellement qu'environ 70 à 80 millions de dollars selon la FIFA.
Basketball, la Chine arrache la finale et va jouer contre les États-Unis au Mondial féminin.
En demi-finale ce jeudi, la Chine a remporté un bras de fer magnifique et à suspense dans une ambiance de folie face à l'Australie à Sydney, 61 à 59. Les Chinoises disputeront leur première finale depuis 1994 et une défaite contre le Brésil déjà à Sydney. Ce sera face à l'ogre américain. Les États-Unis, triple tenant du titre, se sont qualifiés pour la finale après une démonstration de force face au Canada, 83-43.
Page de sport VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La pandémie de Covid-19 et le conflit en Ukraine sont deux des crises majeures qui ont affecté les économies africaines cette année. Pour soutenir les pays africains face à ces crises, la Banque islamique de développement apporte divers appuis financiers et techniques. Anassé Aïssami, directeur général des programmes pays de la banque, nous en dit plus. Il a été joint à Jeddah, en Arabie Saoudite, par Mohamed Oumfa.
L'engagement total du groupe de la Banque islamique de développement dans la réponse à la COVID-19 est d'environ 4,7 milliards de dollars américains. Le groupe a adopté un programme stratégique de réponse. Il s'agit de répondre, de restaurer et redémarrer. L'axe répondre a permis de renforcer les systèmes de santé pour prendre en charge les soins des personnes infectées. Il a renforcé la capacité de production des kits de tests et de vaccins. Et il a soutenu la capacité de préparation des pays aux pandémies. Le deuxième axe, restaurer, fournit des actions à moyen terme à travers le financement pour le commerce et les petites et moyennes entreprises. Il aide à maintenir les activités dans les principales chaînes de valeur stratégiques et à assurer la continuité des approvisionnements vitaux, y compris les vaccins et autres produits essentiels. Le programme cible plus de 60 millions de bénéficiaires, il maintient plus de 65 000 emplois, il soutient plus de 30 000 agents de santé.
La BID vient d'annoncer un programme de 10,54 milliards de dollars pour atténuer la crise alimentaire et renforcer la résilience des pays membres face aux chocs futurs liés à la sécurité alimentaire. De quoi s'agit-il exactement ?
L'objectif du programme de réponse à la sécurité alimentaire, qu'on appelle FSRP, est d'aider les pays membres à atténuer les effets de la crise alimentaire en cours, tout en travaillant ensemble sur des interventions qui renforcent la capacité, la résilience et la durabilité pour faire face efficacement aux chocs futurs. Le programme soutiendra principalement l'approvisionnement en vivres et en intrants et soutiendra dans la mesure du possible les interventions visant la protection sociale et les moyens de subsistance dans les pays membres de la Banque islamique de développement. À moyen et long terme, il s'agit de renforcer la résilience de l'agriculture au changement climatique, la chaîne de valeur des aliments et des intrants, la productivité des petits exploitants et l'accès au marché, le soutien aux moyens de subsistance en milieu rural, le développement de l'élevage et de la pêche et enfin la construction des systèmes d'approvisionnement alimentaire résilients.
Il y a d'autres problèmes qui ne sont pas forcément financiers, notamment l'accès aux terres, les conflits agro-pastoraux, le changement climatique. Comment est-ce que la BID adresse ces problèmes-là?
Le FSRP, le même programme dans son axe à moyen et long terme, cherche à résoudre les problèmes structurels sous-jacents que vous avez mentionnés. Ces problèmes sont sous-jacents à la crise récurrente de la sécurité alimentaire. On est dans nos pays membres de la région Afrique à mettre en œuvre leur stratégie nationale agricole et sécurité alimentaire. En outre, le programme renforcera les capacités d'adaptation et de résilience des pays membres africains et favorisera le développement des moyens de subsistance pour répondre aux futurs risques et chocs de vulnérabilité. La priorité sera donnée aux pays membres à faible revenu.
Voilà, c'était Anassé Aïssami, directeur général des programmes pays de la Banque islamique de développement, joint à Jeddah en Arabie Saoudite par Mohamed Oumfa. Voilà, la Chambre de commerce des États-Unis s'investit dans la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique à travers son programme US Africa Business Center. Partenaire de la VOA, elle a lancé la première édition de sa compétition relative aux innovations digitales en Afrique. Pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Dr. Guevara Yao. Il est le directeur exécutif pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale de l'US Africa Business Center. Bonsoir, Monsieur Yao.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, en quoi consiste la compétition lancée par l'US Africa Business Center?
Voilà, cette compétition est une initiative qui est tout à fait innovante. C'est une initiative qui permet donc de reconnaître et de récompenser des start-up qui sont donc émergents et qui ont prouvé une certaine innovation dans un certain nombre de secteurs. Et donc là, les secteurs que nous avons le secteur de FinTech, Nous avons le secteur donc de ce qu'on appelle développement humain, et nous avons aussi un autre secteur qui est donc ce qu'on appelle le supply chain. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec la Covid et tout. Et donc c'est vraiment identifier ces talents et pouvoir donc apporter un soutien.
Alors, à quelle phase se situe maintenant cette compétition?
Bon, c'est une compétition que nous avons commencé depuis le début de l'année. Là, nous sommes à pratiquement la dernière phase. Une compétition qui a été lancée le 28 avril dernier. Nous avons reçu près de 2000 applicants. Et nous avons donc procédé à une sélection qui a permis d'identifier 25 à travers le continent. Et pendant les 25, nous avons donc pu déterminer pour l'Afrique du Nord un champion. Nous avons déterminé aussi le champion pour toutes les régions, les 5 régions de l'Afrique. Là, à partir de lundi et mardi prochain, les 10 premiers que nous avons identifiés, nous avons travaillé avec, fait encore une autre sélection pour identifier les 3 premiers. Et ces 3 premiers seront récompensés en décembre en marge du sommet Afrique, des leaders africains à Washington.
Alors j'imagine que les jeunes du continent sont intéressés par cette compétition. Comment on s'inscrit? Quelle est la procédure pour entrer?
Bon, c'est déjà trop tard pour cette édition, mais la bonne nouvelle, c'est une toute première édition que nous allons continuer les prochaines années. Et il faut seulement qu'ils puissent aller sur le site, n'est-ce pas, de la Chambre des Commerces des États-Unis, mais aussi souvent dans les ambassades américaines qui sont donc dans les différents pays. Et nous avons aussi tout un réseau qu'on appelle les AmCham, donc American Chamber, qui sont aussi dans les différents pays. Donc on a tout un système qu'on met en place pour faire en sorte que tous ces start-up, ces SMI qui sont dans le continent ont la possibilité d'avoir accès à l'information et à soumissionner donc le dossier.
Alors, on fait la promotion des startups, mais si on veut postuler, dans quelle discipline on doit exceller?
Comme j'ai dit, nous avons 3 catégories, n'est-ce pas? Nous avons la catégorie des fintech. Nous avons aussi d'autres catégories, comme j'ai dit, supply chain, et puis l'autre catégorie, donc, développement humain. Et donc, ça dépend. Si vous êtes jeune et que vous avez une innovation dans tous ces domaines-là, vous les soumissionnez et on va donc procéder à une sélection. Et je tiens aussi à remercier au passage KPMG qui permet donc de certifier le processus de sélection, faire en sorte que ce soit assez transparent.
Alors, pour cette édition, est-ce qu'à ce stade, on connaît les finalistes?
Nous avons 10 finalistes. Comme j'ai dit tantôt, nous avons pour chaque région un champion. Pour l'Afrique du Nord, nous avons donc l'Égypte, une compagnie d'Égypte qu'on appelle Vaes, qui est donc la compagnie la start-up qui a gagné. Nous avons pour l'Afrique de l'Ouest une start-up nigériane. Nous avons pour l'Afrique centrale une start-up du Cameroun, l'Afrique australe du Zimbabwe et l'Afrique de l'Est du Kenya. Donc nous avons ces champions, à ce stade nous avons 10 finalistes et comme je dis, à partir de lundi, mardi prochain, nous allons procéder à une sélection pour déterminer les top 3.
Alors de quel appui bénéficieront les lauréats de cette première édition de la compétition?
Oh, ça, je pense qu'ils seront très excités, ils seront très surpris, agréablement surpris d'ailleurs, parce que ce que nous avons annoncé auparavant, nous avons eu plus d'appui que ça. Et pour le gagnant, il faut s'attendre à près de 40 000 dollars en plus des soutiens de partenaires que je salue au passage, que je remercie au passage, comme Microsoft, AWS, qui est donc Amazon Web Service. Nous avons Sabastion, nous avons d'autres compagnies qui nous soutiennent comme Standard Bank et une autre compagnie qu'on appelle Vista Bank, qui se sont donc portés volontaires pour appuyer ces différentes start-up qui seront donc lauréats.
Alors, du point de votre position, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la coopération États-Unis-Afrique se porte bien? C'est la dernière question.
Moi, je pense que c'est une coopération qui se porte bien. Elle peut mieux se porter et nous nous attelons à travailler de façon donc ardue, à accélérer, à améliorer, à renforcer cette coopération. Et c'est pour ça que le président Biden d'abord a décidé donc de faire ce sommet que vous connaissez en décembre.
Merci beaucoup, Dr Yao. Je rappelle que je recevais Guevara Yao. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale de l'US Africa Business Center, partenaire de la Voix de l'Amérique. Merci à vous et merci d'être venu dans nos studios.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Voilà, en Afrique du Sud, les plus grands vendeurs en détail réduisent leur dépendance à l'égard de la Chine. Pour les marchandises, privilégiant plutôt les produits vestimentaires d'origine locale. Cela fait partie d'une tendance plus large visant à redynamiser la fabrication de textiles locales. Mais les détaillants se demandent si l'industrie nationale peut répondre aux nouvelles demandes. De Johannesburg, le reportage de Linda Jivtash, le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Le drapeau sud-africain orne de plus en plus les étiquettes des vêtements des grandes chaînes de distribution à travers le pays. C'est un effort fait pour renforcer le secteur de l'habillement et du textile local. Plus de la moitié des produits textiles vendus par les détaillants sud-africains sont importés de l'étranger, selon le gouvernement, et près de 60% de ces importations proviennent de Chine. Les détaillants qui bénéficient du plan directeur du gouvernement pour soutenir les entreprises locales disent qu'il y a plus d'avantages que la simple création d'emplois. Hazel Pillay, directrice générale de la boutique Pick & Pay.
Pouvoir faire fabriquer le produit localement signifie que vous pouvez réellement répondre plus efficacement aux besoins du client, ce qui est vraiment ce que chaque détaillant veut pour aller vers une réponse plus rapide.
La boutique Pick & Pay fait partie des détaillants qui ont augmenté leur offre de produits locaux de 28% en 2019 à 40% aujourd'hui. Le changement prend maintenant de l'ampleur dans la foulée des perturbations du commerce mondial dues à la pandémie de coronavirus et au chômage record. Katekani Moreku est un jeune designer recruté pour contribuer à cet effort.
It gave me a lot of attention and...
Cela m'a donné beaucoup d'attention et m'a donné beaucoup de publicité. À l'époque où nous vivons, où le taux de chômage est très élevé, je pense que cela aura un impact très important et ça va créer plus d'emplois pour toutes les générations.
Moreku estime que sa collaboration avec Pick & Pay en 2020 a créé environ 1000 emplois de la fabrication au marketing numérique. C'est ce que souhaite le gouvernement sud-africain avec un objectif de 121 000 nouveaux emplois dans le textile d'ici 2030. Mais les détaillants disent que cela nécessitera des investissements dans la formation professionnelle et le soutien aux entrepreneurs. Hazel Pillay, directrice générale de la boutique Pick & Pay.
Avant les années 2000, oui, les compétences étaient facilement disponibles. Et au fur et à mesure qu'elles se déplaçaient vers la Chine, l'investissement dans le développement des compétences, l'investissement dans les machines ont disparu. Mais je pense que si nous examinons où en sera l'entreprise locale dans 10 ans, nous allons certainement assister à une reprise de certains de ces types de produits fabriqués localement.
Cette croissance est nécessaire car le détaillant vise à ce que 60% de tous les produits textiles soient achetés localement au cours des 5 prochaines années. Mais les économistes préviennent que la fixation de quotas et d'objectifs ne suffira pas à elle seule à reconstruire l'industrie. Dewi Rood, économiste en chef d'Efficient Group.
Je pense que ce que vous devez faire si vous voulez obtenir plus d'investissements dans le textile et plus de textile local ou dans n'importe quelle industrie ailleurs, c'est que le gouvernement devienne beaucoup plus efficace. Comme par exemple, assurez-vous que l'infrastructure fonctionne correctement, qu'il est sûr d'investir en Afrique du Sud, entre autres.
Des coupures de courant régulières et des chemins de fer en décomposition empêchent les fabricants locaux de produire et de transporter des marchandises. Et il existe d'autres obstacles pratiques à la réduction du déséquilibre commercial de 3 milliards de dollars entre la Chine et l'Afrique du Sud. Mais pour les designers en herbe, même un petit coup de pouce dans l'industrie locale donne l'espoir d'un succès futur.
Voilà, c'était Le Monde aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.